Le journal vous est présenté par Diane Berger.
Bonjour à tous, il est 9h. Direction Tel Aviv dans un instant. Nouvelle manifestation des familles des otages du Hamas hier soir, alors que le mouvement palestinien a diffusé une vidéo montrant deux d'entre eux. Focus ensuite dans ce journal sur la traque aux voix dissidentes en Russie. Cette semaine, un homme a été condamné à 5 ans de camp de travail pour avoir osé critiquer les opérations militaires en Ukraine lors d'un micro-trottoir. À 6 semaines des européennes, les dirigeants nationaux se jettent dans la campagne. C'est le cas en France d'Emmanuel Macron. Idem en Italie pour la figure d'extrême droite Giorgia Meloni. Israël attend la réponse du Hamas à sa proposition de trêve, une pause des combats dans la bande de Gaza contre la libération d'otages. Le mouvement islamiste a fait savoir hier qu'il étudiait le texte et hier soir, pour ajouter encore un peu plus de pression, l'organisation palestinienne a diffusé la vidéo de deux des personnes enlevées le 7 octobre dernier, Omri Miran et Keif Siegel. C'est la deuxième vidéo de ce type cette semaine. Elle a été projetée hier lors d'une nouvelle manifestation des familles d'otages à Tel Aviv. Thibault Lefebvre a assisté pour France Culture et le père d'Omri Miran a d'ailleurs pris la parole.
Le discours est poignant. Dani Miran a les yeux rougis et une longue barbe qu'il a décidé de ne pas tailler jusqu'à la libération des otages. Il exige une trêve. Deux heures avant, il a vu pour la première fois depuis le 7 octobre le visage de son fils Omri dans la vidéo publiée par le Hamas.
D'un côté, tu es très content de voir qu'ils sont en vie, mais d'un autre côté, tu peux remarquer dans leur regard qu'ils sont en train de souffrir.
Pour Michael Lévy, c'est un signe d'espoir. Son petit frère, Or, est otage à Gaza.
Je pense que la seule solution, c'est un accord. J'essaye de ne pas me demander à qui la faute, je veux juste résoudre cette situation.
Dans l'assistance, Sheked est en pleurs.
It's just frightening, honestly.
Il y a de la peur, bien sûr, mais aussi de la colère contre les milliers de manifestants à travers le monde qui, selon elle, défendent la Palestine, mais crachent sur Israël.
Ici, on demande à ce que la guerre s'arrête, qu'il y ait un accord et que les gens reviennent. Et malgré ça, la planète nous considère comme des agresseurs. Et c'est très dur.
La manifestation se termine avec les noms des otages lentement égrenés. Ils sont encore 133 aux mains du Hamas.
Un reportage de Thibault Lefebvre à Tel Aviv. La situation au Proche-Orient et les remous qu'elle provoque dans le monde entier. Aux États-Unis, la police a interpellé près de 200 manifestants pro-palestiniens hier sur 3 campus universitaires à Boston, en Arizona et dans l'Indiana. Le mouvement a commencé il y a 10 jours à Columbia, à New York, et il ne cesse depuis de s'étendre avec des campements qui s'installent sur les pelouses des établissements. Les étudiants protestent contre le soutien américain à la riposte israélienne qui a fait, on le rappelle, plus de 34 000 morts à Gaza. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine se rendra lui demain en Arabie Saoudite. 2 jours de réunion spéciale au Forum économique mondial dédié justement à la situation à Gaza et aux tensions qu'elle génère dans la région tout entière. Riyad Anthony Blinken échangera donc notamment avec ses interlocuteurs sur les négociations concernant le cessez-le-feu et la libération des otages. En Russie, la répression connaît de moins en moins de limites. Depuis des mois, des centaines d'opposants, de militants et de Russes ordinaires ont été emprisonnés pour avoir exprimé leur désaccord concernant les opérations militaires en Ukraine. Et Sylvain Tronchet, la justice du pays semble de plus en plus pointilleuse, le moindre commentaire est scruté.
Oui, illustration encore cette semaine avec la condamnation d'un moscovite de 38 ans à 5 ans de camp de travail correctionnel pour ça. Voilà, ce que vous entendez, c'est un micro-trottoir réalisé à la sortie d'une station de métro de Moscou par Radio Liberty à l'époque où elle pouvait encore exercer en Russie en juillet 2022, donc 6 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine. Cet homme, donc Yuri Kokovets, est interrogé et il y dit que cette guerre a été déclenchée par Poutine et sa clique, que rien ne la justifie et surtout, il dénonce le bombardement des populations civiles et le massacre de Boutcha commis par l'armée russe. Cette interview a été diffusée en format vidéo sur le web. Il a donc été très facilement retrouvé par les services de sécurité russes, très efficaces en la matière. Yuri Kokovets a assumé ses propos avant de se rétracter partiellement, mais il a été condamné.
Et ce genre de peine n'étonne plus personne en Russie. Sylvain, la loi sur la discréditation de l'armée prévoit même des peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans.
Ce sont des peines très lourdes hein, qu'on ne voyait même plus à la fin de l'URSS. Youri Kokovets en plus a franchi la ligne rouge en quelque sorte en mettant en cause directement Vladimir Poutine et en évoquant Boutcha, manipulation des Occidentaux hein, pour le Kremlin. Mais Youri Kokovets est aussi devenu le premier russe poursuivi pour avoir répondu à un média étranger. Et son cas a lancé un débat d'ailleurs dans la profession sur la protection des citoyens russes qui acceptent de parler aux médias occidentaux sans se censurer. J'y suis moi-même confronté régulièrement. L'anonymat est devenu quasiment systématique aujourd'hui quand il s'agit de parler de la guerre avec des Russes ou même parfois de quelque chose qui n'a qu'un lointain rapport avec le pouvoir parce que les conséquences peuvent être judiciaires, elles peuvent être d'ordre professionnel aussi. On peut perdre son emploi pour quelques mots, c'est arrivé. L'anonymat n'est jamais satisfaisant en matière de journalisme, mais il devient pourtant la règle aujourd'hui en Russie.
Sylvain Tronchet, envoyé spécial permanent de France Culture à Moscou. La Russie qui s'approprie aussi les filiales sur son territoire de groupes européens. Hier, l'Italie a convoqué l'ambassadeur russe à Rome après une décision de ce type, validée vendredi dernier. La filiale en Russie d'un groupe industriel italien passe donc sous le contrôle de Gazprom, le géant public russe de l'énergie. Officiellement, c'est temporaire. Une filiale du groupe allemand Bosch est également concernée. Pour l'Union européenne, c'est, je cite, une nouvelle preuve du mépris de la Russie pour la loi et les règles internationales. L'Italie que l'on mentionnait à l'instant où, sauf grosse surprise, la première ministre Giorgia Meloni va déclarer sa candidature aux élections européennes. Aujourd'hui, lors d'une conférence de son parti Fratelli d'Italia à Pescara, l'un des bastions du mouvement d'extrême droite, elle se lance pour le symbole, elle ne démissionnera évidemment pas de son poste. Et à un moment où l'image qu'elle s'est créée de dirigeante moins radicale que prévue commence à s'effriter. À Rome, Bruno Duvic.
À l'international, Giorgia Meloni ne roule pas à l'extrême droite. Alignement sur les positions atlantistes, soutien à l'Ukraine et pas d'écart majeur au sein de l'Union européenne. Mais en Italie, un autre visage se dessine. À plusieurs reprises, elle s'est agacée qu'on l'accuse de vouloir toucher à la loi sur l'avortement.
Je ne veux pas modifier cette loi. En quelle langue je dois le dire ?
Et pourtant, ce mardi, sa majorité a voté pour que les associations pro-vie puissent entrer dans les centres de consultation sur l'avortement. Et puis, il y a la censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati il y a 8 jours à la RAI. Demande directe du pouvoir ou excès de zèle d'un cadre, quoi qu'il en soit, Giorgia Meloni est comptable du climat à la télévision publique où elle a placé ses relais très vite après son arrivée au pouvoir. Dans quel camp se rangeront ses troupes au Parlement européen après l'élection du 6 juin ? Résolument avec la droite nationaliste ou plus proche des modérés lors de certains votes ? Elle renvoie à l'après-scrutin quand cette question lui est posée. En tout cas, ces européennes, les premières élections générales depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir seront importantes en Italie. Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, héritier de Berlusconi, sera candidat, tout comme la leader de l'opposition, Elly Schlein.
La bataille européenne dans laquelle se lance également en France Emmanuel Macron, après son discours jeudi à la Sorbonne, il a répondu aux questions de 12 jeunes lecteurs du groupe de presse Ebra, celui auquel appartiennent, pour ne citer que quelques noms, l'Est républicain et le Progrès. Élodie Forêt, dans cet entretien face aux lecteurs, le chef de l'État a ciblé le Rassemblement national, largement en tête des sondages.
Interrogé sur la montée du Rassemblement national, Emmanuel Macron sonne la charge. Il y a une hypocrisie démocratique du RN, assène le chef de l'État, qui mitraille. Le parti lepéniste ne propose rien, dit-il, s'en prenant ensuite à l'inconstance de l'adversaire. Il y a 7 ans, il voulait sortir de l'Europe. Il y a 2 ans, on ne savait plus trop. Puis sur les agriculteurs, ils ne votent pas la PAC, s'exclame le chef de l'État. Jordan Bardella a en effet voté contre en 2019. En 2021, il a en revanche voté pour. Mais qu'importe les détails pour Emmanuel Macron, l'essentiel est de passer des messages simples. Je dis la technique, aujourd'hui la pédagogie sur son concept d'Europe puissance. Le chef de l'État qui a notamment de nouveau appelé à rendre crédible la défense européenne. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement, insiste Emmanuel Macron, assumant d'ouvrir le débat sur l'arme nucléaire.
Élodie Forêt, un parquet national dédié aux crimes organisés et le renforcement du statut de repenti, ce sont les annonces d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux chez nos confrères de la Tribune dimanche. Le gouvernement veut muscler son arsenal législatif pour lutter contre les trafics de drogue. Et puis un mot rapide de météo, le ciel devrait se dégager progressivement sur la façade atlantique. La grisaille et la pluie demeurent dans le centre du pays et surtout vers l'est, avec même des risques d'orage dans le sud-est du pays. Les températures ce matin sont fraîches entre 9 et 10 degrés.
sur la moitié nord, jusqu'à 13, 15 à Marseille et 18 à Ajaccio.